Parlons de santé publique parce que il y a quand même des nouvelles qui sont intéressantes dans les derniers chiffres qu'on voit depuis quelques jours, là. Par exemple, surtout au niveau des hospitalisations, il y a des régions du Québec qui s'en sortent quand même très bien. Et on se dit, ben, est-ce que la tendance va se maintenir? Les écoles sont ouvertes, on le sait. Il y a les variants du virus. Je regarde l'Ontario, notamment, ça semble frapper durement. Gaston Deserre de l'Institut national de santé publique est avec nous. Monsieur Deserre, bonjour.
Bonjour.
Êtes-vous encouragé un peu par les chiffres des derniers jours, de la dernière semaine, par exemple?
Ah oui, non, ça, clairement, les chiffres actuels sont très encourageants. Hier, en fait, les chiffres d'hier, c'était même qu'on était, on approchait de 1000 cas par jour, ce qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, là. Donc, je pense que vraiment la décroissance actuelle du nombre de cas est assez rapide et très... Je dirais, on est très heureux de ça. Le nombre de cas d'hospitalisation commence à diminuer, mais ça, c'est pas une surprise parce que les cas diminuent toujours, je dirais, avec une semaine ou même deux d'avance sur la baisse des cas hospitalisés. Donc ça, c'est normal, mais évidemment, on a hâte de voir justement le nombre de cas diminuer rapidement aussi au niveau des hospitalisations.
OK. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? L'effet sur les écoles, peut-être le retour de voyageurs, là. Qu'est-ce qui pourrait venir influencer le tableau?
Bien, vous parlez des voyageurs. Je pense que, oui, les voyageurs peuvent nous inquiéter à cause de la possibilité d'introduire des variants qui seraient plus transmissibles ou qui seraient... Pour le moment, on n'a pas de variants qui ont l'air d'augmenter la sévérité de la maladie ou qui ont l'air d'être capables de contourner l'immunité des vaccins. Mais donc, des variants qui sont plus transmissibles, évidemment, ça rend les choses plus compliquées. Donc, mais par contre, les voyageurs actuellement, c'est certain qu'on n'est pas dans la situation de l'an dernier. Actuellement, la très, très grande majorité des cas, ce sont des gens là qui ont acquis leur maladie ici. Et c'est ça qui est, le gros ennemi à combattre actuellement. Je pense que c'est certain que la décision de faire que les enfants retournent à l'école, c'est parce que notre gouvernement là a comme priorité un peu les mêmes priorités qu'il y avait à l'automne, là, à savoir assurer les soins de santé, donner accès à l'éducation aux enfants, puis faire que l'activité économique soit la plus normale possible, parce que évidemment ces trois objectifs très très importants, mais qui ont évidemment tous un impact les uns sur les autres au niveau de la COVID. Donc les enfants sont retournés à l'école. Les mesures pour essayer de prévenir la transmission à l'école ont été accentuées pour essayer de faire que l'école, je dirais, à l'automne dernier, on a vu qu'au début, c'était beaucoup les infections dans la communauté qui rentraient dans les écoles, puis à la fin de l'automne, là, on avait quand même plus de transmissions qui partaient des écoles puis qui s'en allaient dans la communauté. Alors, c'est sûr que ça, on voudrait bien là, que les écoles, même s'il y a évidemment des jeunes qui se font infecter dans la communauté, qu'il y ait peu ou pas de transmission à l'école. Alors ça, c'est ça qu'il va falloir, je dirais, là, surveiller de près parce que, évidemment, on est dans une situation où tout est dépendant de notre comportement. Actuellement, on n'a pas d'immunité vaccinale qui est disponible dans l'ensemble de la population. Donc, c'est nos comportements qui fait que l'épidémie va aller dans un sens ou dans l'autre.
Est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui si le couvre-feu a des effets concrets là, maintenant sur les tableaux?
C'est difficile d'isoler l'effet du couvre-feu. Je pense que une des choses qu'on a pu voir, c'est la tendance à la baisse dans le nombre de cas a commencé quelques jours avant l'apparition, avant la mise en place du couvre-feu. Évidemment, la tendance s'est accentuée à la baisse là, du nombre de cas à travers les semaines qu'on vient de passer avec le couvre-feu, mais l'effet isolé du couvre-feu, c'est très difficile à calculer. Par contre, c'est certain que le couvre-feu donnait un message, avait deux impacts. Il donnait le message que durant la soirée, là, vous restez chacun chez vous, et donc tout ce qui pouvait se faire durant la soirée, ça a été un peu arrêté, et ça a certainement contribué à accentuer l'effet. Mais le deuxième aspect, c'est de dire, écoutez, on est dans une situation critique. Nos hôpitaux sont pleins, les services des soins intensifs sont pleins à craquer. Si on continue, ça va être épouvantable. Et donc, je pense que ça, l'impact de ce message-là, c'est dur à quantifier aussi, mais ça peut faire que non seulement durant la soirée, on voit pas de monde, mais que durant la journée, on fait plus attention. Alors, mais comment quantifier ça, je vous dirais, pour le moment, on n'est pas capable de le faire.
Mais je vous écoute, là, puis je vous soumets un résumé. Dans le fond, vous dites, bon, on a des retards dans la vaccination, c'est-à-dire que là, ça tourne au ralenti, problème d'approvisionnement, mais on comprend que il y en a pour plusieurs mois avant que le niveau de vaccination au Québec puisse atteindre, disons, je dirais un pourcentage qui va être rassurant là, pour protéger la communauté, d'une part, l'immunité dans cette communauté, que deuxièmement, moins on va faire de rassemblements, mieux c'est, moins on va avoir de contacts, mieux c'est, puis qu'on n'a pas trop le choix, justement, dans l'attente de l'effet vaccin, là.
C'est un très bon résumé que vous venez de faire. Je pense que l'approvisionnement en vaccins est tellement lent que je dirais, vous savez, ce qui était prévu avant que Pfizer annonce qu'il n'était pas capable de livrer tout ce qu'il avait promis, c'est 1,3 million de doses au Québec entre donc la mi-décembre et la fin du mois de mars. 1,3 million, là, c'est à peu près ce dont on aurait besoin pour vacciner les 70 ans et plus, les gens dans les travailleurs de la santé et je dirais les communautés éloignées là, avec une première dose. C'est sûr que là, on parle juste d'une première dose, là, parce que c'est 1,7 million de personnes qui sont dans les 70 ans et plus, qui soient en CHSLD, en RPA ou autre, ou qui vivent chez eux, plus les travailleurs de la santé. C'est beaucoup de monde. Et avec 1,3 million de doses, on aurait eu ce qui aurait été suffisant pour ça, mais c'est sûr que les 60-69 ans, là, c'est 25% des admissions aux soins intensifs, c'est 20% des hospitalisations. C'est un groupe qui est plus jeune, qui est plus gros, pour lequel, si on veut empêcher qu'ils deviennent sévèrement malades, ça prend beaucoup de doses. Alors oui, l'approvisionnement est problématique. Et le problème, c'est pas un problème québécois, c'est pas un problème canadien, non. C'est un problème mondial. Et évidemment, okay. C'est bien plus compliqué à régler dans ce cas-là.
J'ai deux questions en terminant. La première, est-ce que d'avoir une première dose Pfizer puis une deuxième dose Moderna, c'est grave? On comprend que c'est pas ça là, qu'il faut faire, mais est-ce que ça peut avoir des impacts selon vous?
Ben, je pense que évidemment c'est pas ce qui est recommandé, c'est non. Pas ce qui est souhaité. Mais une fois dit ça, je pense que à peu près tout le monde qui travaille dans le domaine des vaccins regarde comment les deux vaccins sont faits et qu'est-ce qu'ils ont comme mode d'action. Et je dirais la probabilité, c'est qu'une dose d'un produit suivie par une dose de l'autre produit va donner une très bonne réponse et augmentera pas les risques d'effets secondaires.
OK. La deuxième question, dans des régions où il y a peu de cas, là, et je pense au Bas-Saint-Laurent, les Îles-de-la-Madeleine, la Gaspésie, il y en a quand même quelques-unes. Puis les gens disent, écoutez, là, on peut pas appliquer les mêmes mesures qu'ici. Là. On pourrait reprendre un certain nombre d'activités, rouvrir certains types de commerces. Bref, pas avoir une politique mur à mur pour ce qui est des restrictions. Vous en pensez quoi? De revenir au code de couleur, là.
Oui, ben, mais je pense que c'est vers là que le gouvernement veut aller. Hein. Je pense que l'idée est évidemment dans toutes ces décisions-là, c'est d'essayer de peser là, qu'est-ce que c'est qu'on doit faire pour empêcher la COVID de prendre une place là, tellement grande dans les hôpitaux qu'on n'est plus capable d'assurer les autres services de santé. Et qu'est-ce que c'est qu'on est capable de laisser faire dans le reste du fonctionnement social parce que, évidemment, les conséquences de bloquer toutes sortes d'activités, ce sont des conséquences qui sont considérables. Alors, je pense que l'idée actuelle, c'est effectivement de revenir à, je dirais, à une situation où on peut appliquer des mesures plus différenciées selon le fait que t'as pas de cas dans ta région ou au contraire que t'en as beaucoup. Je pense que la date là du début février où le gouvernement avait où le couvre-feu, en tout cas la directive pour le couvre-feu se termine, va certainement être une date butoir pendant laquelle le gouvernement va devoir décider là comment il organise ces choses. Mais je pense que l'idée est vraiment de retourner vers un code de couleur puis d'être capable d'appliquer des mesures différentes s'il n'y a pas de cas dans la région par rapport à des situations où il y en a beaucoup.
Merci, Dr. Desserre. Bonne journée.
Merci, M. Arcand.
Au revoir, Dr. Gaston Desserre de l'Institut national de santé publique du Québec. Un mot, juste avant d'aller retrouver Marc, là, parlant de santé publique, ils l'ont échappé pas à peu près à Montréal. Là. On comprend qu'il y a des individus de la communauté hassidique qui ne veulent pas respecter les règles, là, puis qui, justement, s'amusent un peu à jouer. Sauf que hier, là, sérieusement, là, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. D'un côté, on a une règle qui devrait être simple. Pour les lieux de culte, là, c'est 10 personnes. Synagogue, mosquée, église, temple, peu importe, c'est 10, pas plus. Dimanche soir, on nous dit, ouais, mais 10, mais s'il y a une porte autonome, si le local est loin de l'autre, ben là, ça peut être un autre 10, puis un autre 10. Ben... Fait que, vous comprendrez que les leaders ont dit, ben, on est correct. Vendredi soir, il y en a qui ne respectaient pas même cette règle. Ils sont sauvés en courant, puis qui ont foncé sur la police. Mais là, hier, là, vous comprenez leur réaction en disant, ben là, vous changez encore les règles. Puis pourquoi c'était correct, puis là, ça ne l'est plus. Là, la santé publique, dans un dossier hyper délicat, l'a échappé. Puis là, tu me mets à la place de la police. Avec nous autres, on gère ça comment vendredi, là? Ça devrait être simple. Puis je veux profiter encore de cette tribune pour dire que les extrémistes orthodoxes au sein de la communauté hassidique, c'est un très, très faible pourcentage. C'est dommage que ça génère des commentaires antisémites à tour de bras sur les réseaux sociaux et dans ma boîte de courriel. Ça n'a rien à voir. C'est des gens qui, dans certains cas, ne veulent pas respecter pour qui la prière est fondamentale puis que ça passe avant tout. Et là, on dit à la police, ben gérez-moi ça. Fait que vendredi, ça devrait être clair, là, puis il faudrait que ça soit clair avec les leaders de la communauté. 10, pas plus. Puis là, pas des fausses synagogues, puis pas des rassemblements à gauche puis à droite. Sinon, ça va recommencer là, en opération policière dans le secteur. Marc est là. Est-ce qu'on a des points chauds particuliers?